Êtes-vous prête pour le nouvel an?
Oui.
C'est bon. Dieu est prêt. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est prêt pour le nouvel an. Qui croit ça?
Oui.
Yes. Amen. J'avais à cœur de commencer par remercier l'Église. Tout ce que vous faites pour le royaume des cieux. Wow! C'est incroyable. On est tellement bénis d'avoir une belle église comme ça avec plein de gens qui s'impliquent dans plein d'affaires, qui mettent leurs dons au service de Dieu. Je suis béni. Vous vous bénissez les uns les autres. La Nodière est bénie. Le royaume des cieux est béni. Les anges se réjouissent. Merci vraiment. Merci de tout cœur à chacun de vous. Vraiment, ouais. Vraiment. Yes. Le thème cette année. Hey, le thème l'année passée, vous en souvenez-vous? La terre sera remplie de sa gloire. Non, non, ça, c'est avant, ça. L'autre année d'avant, c'est lui. Le thème de cette année, c'est libre. C'est bon? C'est bon, hein? Non seulement Dieu veut conquérir la terre et remplir la terre de sa gloire, mais il veut le faire avec des gens libres. Jésus est venu sur la terre pour nous rendre libres. C'est vraiment été son plan. Il voulait nous rendre libres dans ce qu'on était en tant qu'essence de ce qu'il a créé lorsqu'il a décidé de créer l'être humain. Il a voulu nous redonner cette liberté-là qu'on avait perdue depuis des millénaires auparavant. Il voulait redonner ça à l'humanité. Et il nous a donné tout ce qu'il fallait pour redevenir libres. Et c'est pour ça que cette année, on avait à cœur de parler de ce sujet-là, parce qu'on est tous en cheminement vers la liberté. Pourtant, on a tous reçu la liberté à 100% lorsqu'on a donné notre vie à Christ. Parce que Jésus a payé pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il nous a donné le salut éternel, il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné son esprit, il nous a fait naître de nouveau. Donc, la liberté, elle vient avec tout ça. Sauf que, malheureusement, on ne marche pas libre dans notre vie. Pas assez. Jamais autant que Dieu voudrait. En fait, loin de ce que Dieu voudrait vraiment. Et le Seigneur, il veut nous rendre libres complètement. Hein? Il veut nous emmener dans ce processus de liberté-là. Parce que ça, on l'a, mais il y a des choses à changer. Il y a des choses à comprendre. Puis il y a des choses à faire pour rentrer pleinement dans notre liberté que le Seigneur nous a donnée. J'avais deux versets qui vont être les versets clés cette année. Lorsque moi puis Laurent, on s'est réunis pour prier, puis chercher la face de Dieu, de jeûner, pour connaître le cœur de Dieu pour 2016. Il nous a donné chacun un verset. Jean 8, 31, 32 et Galates 5, 13. Hein, Jean 8, 31 et 32, ça dit, et c'est Jésus qui est en train de parler aux Juifs, ça dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il y a bien du monde qui était surpris là-dedans, à ceux qui l'écoutaient. Ça dit qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, mais il y avait beaucoup de Juifs aussi dans ce monde-là qui n'avaient pas cru en lui. Et ceux qui n'avaient pas cru en lui, ils ont dit, « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, nous rend? On sera libre. On est libre. » Et ça, c'est le reflet de ce qu'on ressent, nous autres, les êtres humains. Hein? On se sent libre. Pourquoi qu'on a besoin de plus de liberté alors qu'on est déjà libre? Hein? C'est sûr que tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, ont expérimenté cette nouvelle liberté aussi. Okay? On a senti, probablement on a expérimenté que finalement on n'était pas libre et on a ressenti une nouvelle liberté que Dieu mettait en nous en étant conscient que nos péchés étaient, qu'on était purifiés, qu'on était lavés, et aussi en ayant plein de victoires nouvelles qu'on n'avait jamais réussi à avoir par nous autres mêmes, et que soudainement, par la puissance du Saint-Esprit, on pouvait vivre. Donc oui, ceux qui ont connu l'Esprit Saint, on a connu qu'on n'était pas libre, puis que Dieu nous a donné une liberté, puis qu'on est en cheminement vers une liberté. Par contre, les Juifs qui étaient là, puis qui croyaient pas en lui, ils disaient, comment ça, on n'a pas besoin de liberté, on est libre. Hein? C'est intéressant que ces Juifs répondent ça, on est libre, alors qu'ils étaient dominés par les Romains. L'Empire romain dominait sur les Juifs à ce moment-là. Ils n'avaient vraiment pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient sous la loi de Moïse, cette loi-là que la parole dit qu'ils n'ont jamais réussi à suivre. Jésus lui-même dit, faites ce que vous disent les pharisiens, mais faites pas comme eux autres parce qu'ils suivent pas, ils font pas la loi de Moïse, ils la suivent pas. Hein? Donc, ils étaient prisonniers d'une loi en même temps. Ils étaient prisonniers, bien entendu, Jésus leur a dit, quand ils ont dit, on n'a pas besoin de liberté, on est libre, Jésus a dit, ouais, mais celui qui est esclave du péché, il est pas libre. Celui qui est esclave du péché est esclave. Et bien entendu, quand t'es pas conscient que t'es pécheur, quand t'es pas conscient que le péché est ancré en dedans de toi, tu sens pas ce manque de liberté-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, le péché prenne une emprise suffisante sur toi, parce que tu te dis, hey, là, je suis pas libre, là. Hein? Mais souvent, dans ta vie de tous les jours, surtout quand la vie roule, puis ça avance, puis tu fais de l'argent, puis tu t'achètes ton char, puis ta maison, tu sens pas que le péché a une emprise sur toi, parce que tu sens pas que le péché humain empêche l'être humain de devenir vraiment humain, créé à l'image de Dieu. Tu le vois pas, ça, tu sais. Mais Jésus leur a dit, celui qui pratique le péché, il est esclave du péché. Et moi, je suis venu pour vous libérer de votre plus grande esclavitude, de la plus grande raison de votre manque de liberté qui est le péché qui est en vous autres. Donc, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Et dans Galates, Paul, il dit aux Galatiens qui avaient connu cette liberté-là et qui étaient retournés dans le côté, pas le côté obscur, là, Dominique, là. Okay. Dominique a fait une journée de Star Wars, 6 films d'une shot au CCM. Mais il était retourné dans le côté non obscur, mais le côté religieux, qui est le côté obscur. Hein? Ouais, c'est le côté obscur, finalement. Ouais. Le côté religieux sous la loi, sous le fardeau. Hein? Il était retourné là, les Galates. Puis Paul, il leur dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Et trop souvent dans l'Église, on se convertit, on connaît le Seigneur, puis ça fait du bien. Et après ça, on arrête là. On ne va pas plus loin dans cette quête de liberté-là. Des fois parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a plus. Des fois parce qu'on ne croit pas vraiment que les pas qu'on a à faire valent la peine d'être faits, que ça va nous faire du bien autant que ça va nous faire du bien. Peut-être par ignorance. Peut-être parce qu'il y a une lutte contre le péché qu'on ne pense pas qu'on est capable de vaincre. En fait, on n'est pas capable de vaincre aucune lutte, mais on ne pense pas que Dieu est capable de vaincre pour nous, de combattre pour nous puis de nous donner la victoire. Il y a plein de raisons. Mais on a de la misère, même après notre nouvelle naissance, à rentrer pleinement dans la liberté que Dieu nous appelle à vivre. Donc, 2016 va être une exploration, un chemin qu'on va faire ensemble vers une plus grande liberté. C'est un bon plan, ça, pour 2016? Amen. Yes. De cette façon-là, on va être plus heureux, on va être mieux dans notre peau, puis on va avoir beaucoup plus de puissance, parce que c'est dans la liberté en Christ qu'on a la puissance d'aimer et d'apporter l'amour de Christ partout autour de nous et sur la terre, d'apporter la guérison, d'apporter la transformation, l'espoir et tout ce que les gens cherchent de tout leur cœur dans toutes sortes d'avenues. Hein, je partageais avec Emmanuel, c'est intéressant, elle cherchait la vérité partout, puis j'ai fait un peu la même chose pendant bien des années. On cherche, l'être humain, là, c'est incroyable, autour de nous autres, ça cherche. Et finalement, il y a juste en Jésus-Christ que tu trouves la satisfaction. Ah, ça prend un bon grand verre d'eau, là. Ah. La soif est assoiffée. C'est juste en Jésus qu'on trouve ça. Le reste, on pense toujours avoir trouvé. Mais finalement, on frappe un mur. Puis on recherche, puis on frappe un mur. Puis on trouve jamais vraiment. Mais en Jésus, on trouve. Et des gens qui cherchent comme ça, il y en a autour de nous. À tonnes. Et ils attendent juste qu'on aille les voir. Hein? Mais on a besoin d'être libre pour aller les voir. Savez-vous, on a besoin d'être libre. Si on n'est pas libre, soit qu'on n'ira pas, ou on va y aller mal, on va y aller tout croche. On va les repousser plutôt que les attirer. Dieu, il veut qu'on rentre dans cette pleine liberté-là. Amen. Donc, c'est notre aventure de 2016. Quoi? OK. La première série qu'on entame cette année dans le chemin de la liberté, on a eu à cœur de prendre le livre d'Esther et le décortiquer rapidement en 3 dimanches. Ça aurait pu nous prendre l'année, hein, sincèrement. Mais on sait que vous êtes très, très assoiffé de la parole et que vous allez tout faire vos études du livre d'Esther et le décortiquer dans tous les raccoins. Avec toutes sortes de livres, toutes sortes de sur Internet, puis tout ça, puis que vous allez aller jusqu'au bout d'Esther. Donc, on va juste vous donner le goût. Mais on va se servir de ce livre-là parce que le livre d'Esther, c'est vraiment un livre sur la liberté. Hein? C'est vraiment un livre qui a rapport à la liberté. Et on a intitulé notre première série « Entre dans la liberté ». Amen. On a le goût de commencer cette année comme Esther. Et comme ceux qui connaissent un peu le livre d'Esther, vous savez que Esther, on va le voir tantôt, elle a proclamé un jeûne de 3 jours avant d'agir pour apporter la liberté de son peuple. Et vu que c'est dans le temps de Noël, je vais vous conter l'histoire d'Esther tantôt. Hein? C'est le temps des histoires, le temps de Noël. Mais c'est une histoire vécue, par contre. Pas une histoire fantastique non vécue, mais c'est une histoire fantastique vécue. OK? Elle a proclamé un jeûne de 3 jours et ça a changé l'histoire de la nation, du peuple de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on a à cœur de faire du 14 au 17 un jeûne ensemble. Vous vous souvenez-vous, l'année passée, on a fait un jeûne de 40 jours. C'était un jeûne où chaque jour, il y avait des gens qui jeûnaient et qui priaient. On a rempli notre 40 jours. Il y avait entre 2 et 6 personnes pendant les 40 jours qui jeûnaient et qui priaient. Ça a été glorieux. Je pense qu'on a eu plein de réponses à nos prières cette année, en 2015. Dieu nous a donné plein de choses qu'on avait demandées. Dieu nous a fait avancer autant spirituellement que dans l'établissement de son Église ici. Dieu a vraiment honoré notre jeûne qu'on a eu. On veut encore commencer notre année en 2016 avec un jeûne, mais un jeûne différent. Et ça va être le jeûne d'Esther qu'on va faire. Et vous allez comprendre peut-être plus le jeûne d'Esther tantôt, mais brièvement, c'est un jeûne de 3 jours qu'on va faire. Puis on va le faire du 14, c'est un jeudi midi à dimanche midi, quand on finit notre réunion. OK? Et c'est collectif, donc là, cette fois-ci, c'est tout le monde en même temps. Et choisissez la forme de jeûne que vous voulez. C'est sûr qu'Esther, eux, c'était sans eau ni nourriture, mais on sait que tout le monde est rendu à un certain niveau, au niveau de sa pratique du jeûne. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné de leur vie. Alors, je vous dirais, jeûnez là où vous êtes rendu. OK? Si vous êtes rendu à sauter un repas par jour, mettons le souper, puis prier le soir à place de souper, ou le déjeuner, puis se dépêcher à manger le dîner parce que vous n'en pouvez plus. Pas grave, peu importe le jeûne que vous choisissez. S'il y en a qui décident de faire un jeûne semblable à Daniel, de pas manger rien de chargeant, juste des légumes, ou il y en a qui font ils prennent juste du jus de légumes, du jus de fruits. Il y a toutes sortes de formes de jeûne qui peuvent être, mais le but du jeûne, c'est je dis à ma chair, tasse tes passions et tes désirs, moi, c'est Dieu que je veux rencontrer. Finalement, c'est ça un jeûne. Hein? Fait que la façon qu'on le fait, ça n'a pas d'importance, c'est l'intention qui compte. Okay? Et puis, c'est dire, je mets de côté mes désirs qui me font vivre sans arrêter depuis, dans mon cas, 57 ans. Vous savez mon âge maintenant. Dites pas que je suis en chemin vers 60 ans, j'ai 57 ans. Et on met ça à part pour pouvoir s'approcher de Dieu, entendre Dieu, parler à Dieu, déployer notre cœur devant Dieu. Hein? C'est ça le but du jeûne. Donc, on ferait ça ensemble, de jeudi midi à dimanche midi. Et le dernier 24 heures, OK, essayez de mettre un 24 heures, si c'est possible, à part, OK, pour qu'on puisse, ce qu'on a à cœur, c'est d'être ensemble le plus possible. On sait que c'est pas tout le monde qui est capable de vivre ça, c'est pas tout le monde qui est disponible nécessairement pour le vivre, mais à partir du samedi midi jusqu'au dimanche midi, c'est le dernier 24 heures du jeûne, on a loué la salle ici, 24 heures, on va mettre des matelas des matelas bleus qui sont en haut, on va les mettre ici en bas. Ça se peut qu'on fasse ça en haut, on va voir comment on est le monde, on va voir. Mais de toute façon, on va prendre un dernier 24 heures, tous ceux qui peuvent, ensemble. Des fois, ça peut être juste que vous pouvez une couple d'heures pendant ce 24 heures-là, vous venez puis vous repartez, c'est correct. OK? Puis on va faire toutes sortes de choses pendant ce dernier 24 heures ensemble. On va être notre troisième journée de jeûne. On va louer le Seigneur. On va prier les uns pour les autres, on va intercéder pour notre nation, on va prendre des temps pour écouter Dieu, on va prendre des temps pour parler ce qu'on entend de Dieu, au nom de Dieu, on va prendre un temps pour que les enfants puissent participer aussi, donc un temps intergénérationnel. Et quoi? À 16h samedi. Les Suisses, hein, eux autres, c'est l'horaire. Hein? C'est bon. On va vous donner un horaire, finalement, Laurent, puis on va tout marquer ce qu'on va faire. Mais je pense que ça va être quelque chose de... Wow! Je suis sûr. OK? Fait que tous ceux qui peuvent, puis ceux qui sont pas ici le matin, on va l'annoncer la semaine prochaine aussi. On va prendre ce temps-là. Donc, 3 jours de jeûne et un dernier 24 heures le plus possible ensemble, dans la mesure du possible, pour vivre des choses avec Dieu et entre nous. Et dans quel but? Ben, je vais vous dire ça, c'est le même but qu'Esther. Et on va voir l'histoire d'Esther ensemble. Donc, un survol de l'histoire d'Esther. Je vais vous lire les 5 premiers versets. Je lis les versets sur mes feuilles, comme ça, je ne passerai pas de la Bible à les feuilles, mais vous pouvez tourner au livre d'Esther, on va pas mal rester là-dedans, tous ceux qui ont leur Bible. Donc, ça ne devrait pas prendre du temps de chercher d'un verset à l'autre. On va juste en lire des petites portions. Les 5 premiers versets disent la chose suivante. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus, c'est un nom ça, Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et ses serviteurs, les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Donc, il avait le goût de montrer sa richesse, sa beauté, sa grandeur, sa puissance. C'était le roi Assuérus. Cela dura, combien de temps sans lire là? 180 jours. C'est un bon party? Hein? 180 jours de party pour montrer tout ce qu'il était. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, donc c'est une ville, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Donc, on se met dans le cadre, plusieurs années avant Jésus-Christ, environ 400 ans avant Jésus-Christ. Et on peut regarder la map qui suit. OK, dans cette map, on voit un petit peu l'étendue, OK, un peu plus grand, mais on voit l'étendue du royaume des Perses et des Mèdes à ce moment-là, dont Assuérus était l'empereur ou le roi. Donc, ça partait de l'Égypte, l'Éthiopie, et ça allait jusqu'en Inde. Tout un grand territoire, un très, 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 très grand empire. En fait, si on regarde un petit peu l'historique de ce qui s'est passé au courant de l'histoire du peuple d'Israël, on sait que Moïse a fait rentrer le peuple d'Israël en Israël, et suite à ça, ils se sont multipliés en Israël, Et ils ont eu des périodes qui suivaient le Seigneur, des périodes qui suivaient pas le Seigneur. Et à un moment donné, c'était de pire en pire, de pire en pire. Et finalement, Dieu a décidé de déporter son peuple. Le premier peuple qui a été déporté, c'est le nord, les tribus du nord d'Israël, qui est pas la tribu de Juda, qui sont les Juifs, finalement, qui a fait les Juifs, mais toutes les tribus du nord, la Samarie, qui est devenue la Samarie, ça a été la Syrie. Il y a eu un premier empire avant. On peut peut-être aller voir le timeline qui est ici. OK, donc avant 607, avant Jésus-Christ, ça a été le début du royaume de Babylone. Il y a eu le royaume d'Assyrie. Ça c'est la Syrie actuelle, OK? Qui ont été ceux qui ont attaqué le nord d'Israël puis qui ont tous déporté les Israélites, finalement, en dehors du nord d'Israël. Par la suite, il y a eu un empire plus grand qui s'est levé, qui est le royaume de Babylone. Donc, où était Babel, où s'est faite la tour de Babel, OK? Babylone, ça se trouve à être l'Irak, finalement, en gros, là. Et eux ont eu un grand royaume, mais pas autant que l'autre royaume qui était pour venir d'Iran, OK? Le royaume perse, vous avez un peu les années là, dont Assuérus était le roi. Ça, c'est venu plus tard. Donc, lui, le roi de Perse est venu attaquer Babylone et c'est devenu un plus grand royaume. C'est devenu le royaume des Perses et des Mèdes. Les Perses, si on revient à la map juste avant, ça se trouve être dans le sud de l'Iran, qui est Suse, OK? Donc, le sud-ouest de l'Iran, c'est Suse. Et les Mèdes étaient au nord de l'Iran. Donc, se sont unis puis c'est devenu le grand empire qui englobait Babylone, l'Irak, et qui englobait finalement, tout Israël, la Syrie, jusqu'à l'Égypte et de l'autre côté jusqu'à l'Inde. En gros, c'est ce qu'ils ont vécu. Donc, après que le nord d'Israël a été déporté par les Assyriens, il y a eu finalement Jérusalem et tous les Juifs, toutes les tribus de Juda qui ont été déportés à Babylone. Et après ça, il y a eu l'Empire perse qui a pris le dessus. Juste pour nous mettre un petit peu dans l'histoire de ce qui s'est passé. Donc, on va aller au verset 10. Et ça dit, « Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Mehuman, bon, je saute les noms, là, les sept eunuques. Des eunuques, c'était des hommes castrés, qui avaient pas qui avaient coupé les testicules, dans le but qu'ils ne soient pas attirés par les femmes. » Et s'occupait souvent, il y avait plein de tâches, mais une des tâches qu'il y avait, c'est de s'occuper du harem du roi, donc de toutes les femmes du roi. Bien entendu, le roi voulait pas qu'il soit intéressé par ses femmes, donc il prenait des eunuques pour s'occuper de ses femmes. Okay? Donc, le roi a demandé aux sept eunuques qui étaient à son service de faire venir devant lui la reine Vasti, coiffée de la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vasti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Est-ce que vous pensez que Vasti est méchante? En tout cas, moi, je sais que si je dirais à Lise, viens, je veux te montrer... les bijoux que je t'ai donnés, puis toute ta beauté, puis tout ça devant les autres, je sais que Lise ne viendrait pas. Fait que Vasti ne peut pas être méchante, parce que Lise n'est pas méchante. Hein? Probablement qu'elle se dit, si tu penses que tu vas te servir de moi comme un objet là, pour te vanter encore, tu viens de montrer toutes tes richesses, toutes tes affaires, puis là, tu veux me montrer moi, ta femme, no way, j'y vais pas. Sauf que le roi n'a pas aimé ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, le roi, ses conseillers, ils ont dit, ben là, ça n'a pas d'allure. La femme n'a pas obéi au roi. Tu ne peux pas laisser faire ça. Si tu laisses faire ça, toutes les femmes, ils obéiront plus à leur mari. Et on sait que c'est désastreux si les femmes n'oublient pas leur mari. N'est-ce pas, madame? Sylvie? Et où? Alors, Sylvie. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Donc, ils ont dit, c'est, ça serait terrible. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut punir la reine Vasti puis montrer à tout le royaume, finalement, que ça n'a pas d'allure qu'une femme dise non à son mari. De cette façon-là, toutes les femmes, à l'avenir, vont respecter leur mari. Et quand leur mari va dire « lave la vaisselle », ben ils vont laver la vaisselle. OK? Ça marche pas? Non, mais t'es pas dans le royaume de là-bas, toi, là. Enfin, on pourrait continuer la discussion dans le prochain 15 minutes la semaine prochaine. Tout ça pour dire que, en tout cas, c'est vraiment ce que les conseillers ont conseillé au roi. Et le roi, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé d'enlever la royauté à la reine et elle n'avait plus le droit d'aller voir le roi à partir de ce moment-là. Pardon? C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Vous lui devez quelque chose. Donc, on arrive au chapitre 2 d'Esther, finalement. Ça dit, après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vasti, parce que là, elle n'avait plus le droit de le voir, puis elle n'était plus reine. À ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, les jeunes serviteurs du roi dirent qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem sous l'autorité de Hegai, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Donc, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 2 d'Esther, où le roi décide de se trouver un autre reine, suivant ses conseillers. Et pour ce faire, ben, il parcourt tout l'Empire, puis il prend les belles femmes, il les amène dans un harem, et comme on sait, ils vont leur donner un traitement au parfum et à toutes sortes d'huiles pendant un an de temps, avant de la présenter au roi. Et après ça, il la présente au roi. Et finalement, quand il la présente au roi, elle change d'harem, elle s'en va dans un autre harem secondaire, c'est-à-dire l'harem de ceux qui ont déjà vu le roi, qui ont déjà eu, bien entendu, des relations avec le roi. Et dans ce harem-là, ben là, il va chercher des femmes quand il veut. Et bien entendu, son but était aussi de trouver une reine pour remplacer Vasti. Verset 5. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Shimei et de Kis, un benjaminite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Jéconia. Donc, on sait que, à cette époque-là, le roi Cyrus avait déjà permis aux Juifs de retourner à Jérusalem, mais il y avait plusieurs Juifs qui avaient décidé de rester où ils étaient. Comme aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont repartis en Israël, mais il y a beaucoup de Juifs qui décident de rester dans les pays où ils sont. Et bien entendu, eux faisaient partie de ça. Le roi de Juda, qui avait été déporté donc sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus de père ni mère. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hegai, Esther fut aussi prise. Elle n'avait pas le choix. Ceux que le roi décidait de prendre, fallait qu'il y aille. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hegai, le responsable des femmes. Elle plut à l'eunuque responsable. Elle plut à l'eunuque. Donc, ça dit dans les passages qui suivent que Esther a plu à cet eunuque-là. Donc, il a donné beaucoup de faveur par rapport aux autres femmes qui avaient été choisies. Verset 16, Esther fut conduite vers le roi, Assuérus, dans son palais royal. Le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête et proclama reine à la place de Vasti. Et on sait ici que le roi n'était pas au courant qu'elle était juive. Mardoché lui avait dit, je te défends de dire que tu es juive. Okay? Et Esther était marchée dans l'obéissance et la soumission à celui qui l'avait élevée. Et elle n'a jamais dit au roi qu'elle était juive à ce moment-là. Et elle est devenue la reine, finalement, du Grand Empire. Un peu plus loin dans la fin du chapitre 2, on sait qu'il y a un complot qui se fait contre le roi Assuérus. Mardoché en est témoin Et il dit à la reine d'Esther d'aller avertir le roi. Le roi se rend compte que c'était vrai et le roi, finalement, est délivré de cette embûche qui était contre lui. Hein? C'est intéressant de voir tout ce qui s'est passé dans la succession des choses et qui a entouré aussi les actions qu'Esther avait faites. Dans le chapitre 3, on parle d'un homme qui était le second du roi, donc le plus important de l'Empire, okay, mais qui était sous les ordres du roi, c'était Aman. Aman, ça y a monté à la tête d'être le second. Donc, quand il sortait, tout le monde s'inclinait et se prosternait devant lui, sauf Mardoché, parce que étant juif, il ne se prosternait que devant Dieu. Et Mardoché, lui, il n'aimait pas ça. Donc, il est venu, il a grandi une amertume puis une haine, non seulement de Mardoché, mais de tout son peuple, parce qu'il savait qu'il était juif. Et il a eu dans son cœur de détruire, finalement, le peuple juif. Ça dit dans le verset 4, 13 et 14. On n'est pas rendu là. Okay. Donc, il fait le plan de détruire Mardoché et le peuple juif au complet. Et Mardoché en entend parler dans le chapitre 4. Et il va voir Esther puis il lui dit, écoute, faut faire quelque chose, faut que tu plaides en faveur de notre peuple, le peuple juif, parce que si tu le fais pas, ben le roi va détruire tous les juifs, toute ta nation finalement. Qu'est-ce que Esther fait? Premièrement, elle lui dit, ben c'est impossible, je peux pas aller devant le roi. On n'a pas le droit d'aller devant le roi. On est passible de mort si on va devant le roi, sauf s'il présente son sceptre. Mais ça fait un mois qu'il m'a pas appelé le roi. Donc, je suis peut-être plus dans ses faveurs. C'est trop risqué. Mardoché lui répond, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire, de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Donc, Mardoché, loin de juste dire, « Oh, la fille que j'ai élevée est rendue reine. » Mardoché était connecté à Dieu. Et il voyait au-delà des circonstances. Et il s'est dit, « Peut-être c'est pour ça que tu es devenue reine, finalement. C'est pas juste parce que tu étais belle. Il y a peut-être d'autres raisons. » il y avait un verset que... Y a-t-il quelqu'un qui peut me lire le verset 15 et 17, la réponse d'Esther, parce que je ne l'ai pas ici. Oui, 4, 15 à 17, fort, fort. Qu'est-ce qui se passe ici? Esther a dit, OK, j'y vais. Mais elle dit, je te demande de demander à tout le peuple des Juifs à Suse de jeûner et de prier. Moi aussi, je vais jeûner, je vais prier. Et je vais aller me présenter le roi. S'il faut que je meure, je mourrai. Pourquoi qu'elle jeûnait et qu'elle priait? C'est intéressant que Esther, c'est le seul livre dans la Bible où Dieu n'est jamais mentionné. On peut voir par ça la fidélité de Dieu, même quand le nom de Dieu est absent. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à son peuple. Dieu agit toujours. Mais bien entendu, les peuples jeûnaient pour toutes sortes de raisons dans ce temps-là, mais c'était toujours pour des raisons spirituelles. Donc, pour s'approcher d'un Dieu quelconque, c'était pas juste le peuple de Dieu qui jeûnait, d'autres peuples. Et bien entendu, le Dieu des Juifs, c'était Jéhovah, c'était Yahweh, hein, c'était notre Dieu à nous, le Père de Jésus-Christ. Donc, bien entendu, on sait très bien que ce qu'il y avait en arrière de la tête d'Esther, c'était « on a besoin de la faveur de Dieu, j'ai besoin de la faveur de Dieu. Et si je meurs, ben je mourrai. Mais oui, je vais y aller. » Amen. Et bien entendu, le reste de l'histoire, je la passe très rapidement pour dire que la reine va devant le roi. Le roi lui donne sa faveur. Elle l'invite à un banquet. Elle invite aussi Aman qui veut détruire tous les Juifs. Un premier banquet, le roi lui demande, « OK, dis-moi ce que tu veux, je vais te le donner. » Elle dit, « OK, mais je vais t'inviter à une autre fête. » Puis là, je vais te le dire. Elle invite Aman aussi. Aman est tout heureux, lui. Il dit, « Wow, je suis honoré. Deux banquets par la reine m'invitent. C'est super trippant, ça. Je suis vraiment populaire auprès de la reine. » Mais il y avait quelque chose qui clochait dans son cœur. Il dit, « Je ne serai pas en paix, cette fête-là. Moi, j'ai le goût de me lâcher lousse pour avoir du fun. Mais Mardoché, il me tombe ses nerfs. » Fait que si je le peins avant, puis il y a des conseillers qui ont dit ça, ben là, je vais vraiment avoir la tête libre. Fait qu'il décide de pendre Mardoché. La nuit même, le roi n'est pas capable de dormir. Il fait ressortir les écrits et il s'aperçoit qu'il y a un homme qui l'a déjà sauvé. Et il dit, c'est qui a fait ça? Il lui dit, c'est Mardoché. OK, ben je veux honorer. Et bien entendu, je passe les détails parce qu'il est tard. Mais finalement, il demande à Aman d'aller honorer Mardoché la nuit qu'il devait le pendre. Et finalement, Mardoché est honoré devant tout le peuple par Aman qui devait le pendre. Et bien entendu, la reine dit, c'est Aman qui veut tuer mon peuple. C'est ça, ma demande, c'est aide mon peuple. Et le roi se fâche, il fait pendre Aman par le poteau qui était supposé de pendre Mardoché. Et il fait écrire un autre édit qui dit que les Juifs vont avoir le droit de se défendre. Je peux pas changer ce qui a déjà été dit. C'était la loi là-bas. Lorsqu'il y avait une loi, lorsque le roi disait quelque chose, il avait pas le droit de changer d'idée. Mais il pouvait faire une autre loi qui allait contrecarrer celle-là ou qui allait la bonifier. Et cette loi-là, c'était les Juifs auront le droit de se défendre. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Ça faisait longtemps que le peuple de Juifs, depuis plusieurs mois, qui était dans le deuil, dans les tourments, ils savaient qu'ils étaient pour être détruits. Et soudainement, la vapeur change. Il y a un édit qui dit les Juifs ont le droit de se défendre. Et c'était quand même un peuple guerrier qui était qui si on leur donnait la permission et les armes, ils pouvaient le faire. Et ça dit, le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther et à Mardoché. Donc, Mardoché est devenu le second du roi. Ça dit, Mardoché sortit de chez le roi, porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse. Soudainement, Mardoché devient le second du roi. La ville, tout le peuple de Dieu, les Juifs, passent du deuil à la joie, de la tristesse à l'allégresse. Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse, comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque ville, partout arrivait le message du roi qui avait valeur de loi. Et ça finit en disant, le Juif Mardoché était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les Juifs. Il était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute la lignée. Lisez Esther, c'est beau. Je suis pas aussi bon que Patty pour le raconter, mais le lire, ça va être bon. On s'ennuie de Patty. Hein, puis c'est compte. Faut recommencer ça à un moment donné. Mais le message que je veux vous laisser ce matin, le passage d'esclave à libre. Hein, puis faites le tour d'Esther, puis voyez vraiment à quel point. Mardoché et sa famille, c'était des gens qui étaient captifs. Okay, il était dans un pays, premièrement, il était captif à l'étranger, il avait été emmené captif, esclave, okay, parce que c'est quand ils ont emmené captif, ils ont fait travailler pour eux autres, puis tout ça. C'était ça, son environnement. Esther était née dans la même chose. Et Dieu l'a fait passer de cet état-là au deuxième du roi. Ils étaient tous étrangers dans un autre pays. Et quand on est étranger, on n'est pas libre. Dieu leur a donné le pouvoir de pouvoir prendre autorité comme étranger là où il était et de se défendre. Et on sait qu'ils ont eu une grande victoire. Quand ça s'est passé, les Juifs se sont défendus de tous ceux qu'ils aimaient pas, puis ils ont eu une grande victoire. Dieu leur a donné cette possibilité-là. Nous, on vit dans un monde hein, qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous autres, qui n'ont pas les mœurs du royaume. Finalement, on vit exactement ce que la famille de Mardoché, Esther, vivait dans ce temps-là. On est étranger dans un monde qui a des valeurs différentes. Nous sommes du co-citoyens du ciel avec les valeurs de Dieu. On vit dans un monde qui n'a pas ces valeurs-là. On vit la même chose, finalement, que ce que Esther et Mardoché vivaient. Regardez comment que Mardoché et Esther étaient. Respectueux des lois, respectueux du roi. Ils n'allaient pas compromettre, bien entendu, leurs valeurs. Ils n'auraient pas péché pour obéir au roi, mais pour tout le reste, ils étaient obéissants. Ils ont été élevés dans ce pays-là, au poste de reine et de second du roi, les deux, pour leur respect, mais aussi pour leur audace, pour avoir osé faire des pas dangereux, des pas risqués. Vous savez, je pense que le centre de mon message aujourd'hui, ça serait le suivant. Je vous ai dit tantôt qu'on était libre puis qu'on marche vers la liberté, mais la liberté, c'est pas gratuit. Il y a un prix à payer pour être libre. Tant qu'il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis, il a fallu qu'il y ait une guerre pour libérer les esclaves. Et après il y a eu la guerre, après que les esclaves aient été libérés, ça a pris des années et des années avant que les esclaves soient vraiment libres. Et nous, on a reçu cette liberté-là, mais on a continué à travailler. Et le premier pas d'Esther pour gagner cette liberté-là, elle était loin d'être libre, parce qu'en plus de tout ce que je vous disais, elle était une femme, puis dans ce temps-là, les femmes n'étaient pas libres. Elle était dominée par les hommes. En plus, elle était orpheline. Elle était orpheline, elle n'avait pas de parents. Donc, elle n'avait pas vraiment d'identité, sauf elle avait sa nation comme identité. Quand elle a été choisie parmi les femmes belles pour pouvoir être une possible future concubine du roi, elle n'avait pas le choix. Elle perdait sa virginité, elle perdait sa dignité de femme, elle perdait tout. Sa liberté de pouvoir se promener où elle voulait, elle était rendue dans un harem. C'était loin d'être la liberté, c'était l'esclavage total. Le péché, c'est ce que ça fait. Hein? Ça nous rend esclaves, sans qu'on s'en rende compte souvent, ça nous rend esclaves. Ça a été quoi les pas que Esther a fait? Est-ce que ça a été un pas vers le roi ou un pas vers Dieu? Ça a été vers Dieu qu'elle a fait son pas. Hein? C'est sûr qu'elle est allée vers le roi après, mais son premier pas qu'elle a fait, ça a été vers Dieu. Elle a dit, il faut jeûner 3 jours. Pas juste moi, tout le peuple. J'ai besoin de vous autres. Tout seul, je suis pas capable. J'ai besoin de votre appui en jeûne et en prière. Et une prière et un jeûne collectif, c'est puissant, frères et sœurs. C'est ce que Esther a demandé au peuple. Et c'est ce que le peuple a fait. Ils se sont conformés à cela. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Dieu a permis à la reine d'avoir la faveur du roi. Et non seulement d'avoir la faveur du roi, mais de faire rendre compte au roi que Mardoché, c'est un bon gars. Alors qu'il s'est réveillé la nuit, il a permis que Mardoché se rende compte d'un complot, que Mardoché délivre le roi. Et il a permis que la nuit, avant qu'il soit pendu, qu'il s'en rende compte. Donc Dieu a tout permis ça à cause que le peuple s'est arrêté 3 jours et 3 nuits. À chercher sa face. Et c'est puissant. Pierre, il dit, de la part au début de sa lettre, 1 Pierre 1, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, et il continue ainsi, et toute la lettre de Pierre, finalement, Pierre conseille comment agir quand on est étranger. Vous lirez ça, 1 Pierre, ça montre comment on devrait agir. Et ça parle beaucoup de respect et tout ça, mais aussi de piété et de chercher la face de Dieu. C'est ce que Mardoché et Esther ont fait. Ils ont premièrement fait un pas vers Dieu et ensuite, ils ont agi. Ils ne sont pas restés dans le monastère. Ils sont sortis. Ils sont allés agir. Ils sont allés vers le roi. Ils sont allés vers le peuple. Ils sont allés faire des choses constamment pour pouvoir que le peuple juif soit sauvé. Les pas qu'ils ont fait, entre autres, hein, Esther, elle a plaidé auprès du roi. Ça n'a pas été une fois. Hein. Elle a demandé, hey, mon peuple, fais quelque chose. Puis, vous lirez, en tout cas. Je veux juste vous dire, Esther a sauvé son peuple. Dieu a sauvé le peuple à cause d'Esther. On a un peuple, nous autres aussi. Il s'appelle les Québécois. Ben, c'est pas juste des Québécois. Hein? Vous avez un peuple, vous autres aussi, là-bas. Mais là, on vous a adopté Québécois. Hein? Vous êtes rendus des Québécois. Mais c'est sûr que tous les peuples sont précieux aux yeux de Dieu dans le monde entier. On a une nation, notre nation québécoise, s'il n'y a pas personne qui prend du temps de prier et de jeûner pour elle, elle ne sera pas sauvée, comme les Juifs. Hein? Puis ce qui est intéressant, Mardoché a mentionné quelque chose. Il dit, Dieu a fait des promesses à ton peuple. Fait que ton peuple, il va réussir à le sauver d'une façon ou d'une autre. Mais si toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire dans le temps que tu as à faire, toi, par contre, tu ne seras pas sauvé. Toi, tu vas mourir, tu vas rester esclave jusqu'à la fin de tes jours, mais Dieu va s'arranger pour sauver son peuple d'une autre façon. Mais si toi, tu fais quelque chose, mais non seulement tu vas sauver ton peuple maintenant, mais en même temps, tu vas te sauver toi, tu vas sauver ton honneur, tu vas rentrer dans une pleine liberté. Vous savez, il y a un coût à rentrer dans la liberté, mais ça vaut la peine. Le premier qui est libre quand on fait un pas qui peut sembler risqué, que Dieu nous demande de faire, c'est on se libère nous-mêmes. Et ensuite, on libère notre entourage et on libère notre peuple. Et je crois sincèrement que Dieu nous appelle à ça en 2016. Il nous appelle non seulement à nous cheminer vers la liberté, mais il nous appelle à être des instruments de liberté pour notre nation. Amen. Pour ça, on a fait plein de belles choses en 2015. On est allé dans les rues, on a prié pour les gens. Puis je pense qu'il faut continuer. Il faut le faire de plus en plus. Mais cette année, à commencer en 2016, j'avais le goût qu'on commence comme Esther et qu'on prenne un temps de prière ensemble, de jeûne, collectif, les uns avec les autres. On peut s'appeler, on peut... toutes sortes de façons de rendre ça beau et merveilleux et puissant. Et ensuite, on va faire comme Esther et Mardoché. On ne restera pas dans le monastère. On va faire ce que l'Esprit-Saint nous indique de faire durant toute l'année. À mesure qu'on va conquérir la liberté, on va vivre la liberté aussi, de pouvoir faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Il y a un prix à payer pour la liberté dans Galates 5:13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Amen. C'est une belle expérience. Je pense que c'est une belle aventure qu'on va vivre ensemble cette année. Je suis excité. Êtes-vous excité? Tous ceux qui sont excités, on va se lever ensemble. Amen. Laurent, viens ici. Tu as voulu être partenaire dans cette aventure de liberté. Je vais te faire prier. J'aimerais que tu pries pour l'Église pour l'année 2016 pour qu'on puisse pleinement rentrer dans la liberté du Seigneur. Amènes-tu?
Avec plaisir. Seigneur, on sait l'histoire d'Esther, on sait comment ça s'est fini, puis on est content. Parce que non seulement Esther a trouvé sa place, le peuple d'Israël a été sauvé, le peuple des Juifs, c'était génial. Mais il a fallu qu'Esther fasse ce pas. Puis on est là, tous ensemble devant toi, confiants en toi, mais aussi paralysés un peu par certaines de nos peurs, nos maladies ou nos manquements. Seigneur, moi je te prie que cette année, on puisse regarder à toi. Qu'en tant qu'Église, on ait le courage d'Esther, de dire de faire le pas. Qu'on ait le courage de sortir de ce qui nous emprisonne pour amener ta liberté dans nos vies, dans nos familles, dans nos voisins, dans toute la province. Seigneur, je te prie un vent de fraîcheur, un vent d'amour, un vent de liberté. Que nous puissions comprendre vraiment ce qu'il y a sur ton cœur pour nous, pour la nation. Seigneur, le futur n'est pas encore déterminé. Tu veux encore transformer, changer, sauver, guérir, délivrer. Seigneur, viens. Que cette année, Seigneur, nous puissions avoir foi en toi et nous laisser rencontrer par toi et faire ce que tu as prévu de faire, qu'on puisse sortir du monastère. Merci pour la liberté, merci pour la victoire, merci pour notre foi en toi où tu dis que toutes choses sont possibles. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Bon retour au travail. On se revoit la semaine prochaine. Considérez en 2016, ceux qui n'ont pas d'église maison, peut-être trouver un petit groupe. Prenez ça comme résolution. Demandez à Dieu de vous aider, de vous guider. Parce que je veux vraiment bénir toutes les églises maison cette année, les petits groupes qui se réunissent comme chez Sylvie Bonneau. Essayez de regarder, Seigneur, comment je peux m'impliquer dans un petit groupe. Je pense que ça va être plus facile encore de vivre votre liberté. Soyez bénis. Bon retour au travail encore une fois, puis on se revoit la semaine prochaine.